Tech Stocks.
Tout un stock d'actions pour investir dans la tech pendant 27 minutes. On va vous apporter des idées neuves, des pépites. On va tenter de faire de vous des insiders. Allez, c'est parti. Notre goat de la tech, parce qu'on l'a en exclusivité, toute seule, rien que pour nous. Alice Labou d'Alice Labou Conseil. Bonjour Alice.
Bonjour.
Alors, vous le savez, chaque vendredi à cette heure-ci, BFM Bourse prend de l'avance sur la tech boursière grâce à votre expertise. Dans un instant, vous allez nous parler de pépites méconnues, mais tout d'abord, on va parler de l'actualité de la semaine et autant dire qu'il y a de quoi causer. Alors, on va parler des actus que vous avez sélectionnées. Microsoft qui relance le nucléaire. Ça, c'est...
On est obligé d'en parler parce que c'est vraiment la grande thématique. Hein. C'est la relation entre l'intelligence artificielle et les sujets d'énergie. Ça devient clé. Et là, je trouve que c'est vraiment important, marquant. Je pense que c'est une des nouvelles les plus importantes d'ailleurs de cette année. C'est que Microsoft, en fait, justement, soutient la réactivation d'un réacteur, pour le coup, nucléaire dans un endroit qui s'appelle Three Miles Island.
Les boomers comme moi connaissent.
Voilà, exactement, les boomers peuvent connaître. Tout le monde ne connaît pas forcément, mais c'est vrai que les Américains connaissent bien parce que ça a été le plus... En fait, c'est là où il y a eu le plus gros accident nucléaire américain.
C'est leur Tchernobyl à eux. Hein. Alors,
Je rassure tout le monde, il n'y a pas eu de mort ni dans la population.
Ça a été très compliqué.
Ni dans les employés, mais c'est vrai que, du coup, les Américains connaissent bien. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il devient indispensable maintenant de se procurer et de sécuriser un maximum de solutions énergétiques dans la durée. Et donc, ça me fait un peu appel aussi, malheureusement, au fait qu'en France, on a énormément sous-investi dans le nucléaire et que c'était un avantage quand même stratégique majeur, notamment dans la course à l'intelligence artificielle. Donc, je trouve que ça mérite qu'on se penche sur le sujet.
Alors oui, en même temps, c'est vrai que les centrales nucléaires, elles poussent pas en deux mois, c'est plus compliqué que ça, mais on a peut-être fait une erreur historique à un mauvais moment, c'est-à-dire de pas relancer le nucléaire comme il faut et de trop hésiter sur les énergies renouvelables, qui peuvent nous aider, elles aussi.
Oui, qui peuvent nous aider, alors pas dans des proportions équivalentes au nucléaire. Et surtout, moi, ce que j'aime dans le nucléaire, c'est que c'était un énorme avantage compétitif français. On savait concevoir, fabriquer, installer, entretenir, en fait, des centrales nucléaires. Je rappelle qu'on a quand même beaucoup formé les Chinois sur comment fabriquer les centrales nucléaires et que maintenant, ils ont tellement amélioré les process de ce que l'on leur a appris, qu'on fait appel à eux quand on a besoin de réinstaller nos propres centrales nucléaires. Donc, c'est pour dire comme on a perdu, en fait, en souveraineté en la matière.
Ah, ben, c'est symptomatique d'un processus industriel raté. On va pas se le cacher. C'est bien dommage. Alors, du coup, c'est quand même bon pour nous parce que derrière, il y a toute l'infrastructure électrique qui doit être soutenue. Et l'infrastructure électrique chez nous, il y a, avant d'arriver au bâtiment, Schneider Electric. Et dans le bâtiment, il y a Legrand. En gros, si on regarde l'architecture des data centers. Mais Schneider Electric, par exemple, ça va rester un acteur majeur. Je ne sais pas, à chaque fois qu'il y a des présentations de projets de data centers, je vois des éléments, il y a marqué petite flèche Schneider Electric. Donc ça, c'est quand même un atout indispensable.
Et là, une fois n'est pas coutume, cocorico, quand même, il faut le dire de temps en temps. C'est vrai que Schneider, en fait, a vraiment cet avantage. C'est-à-dire que comme l'énergie devient le sujet clé, en fait, la capacité à gérer l'énergie, c'est Schneider qui l'a. C'est vraiment un des grands acteurs mondiaux. Et donc, je pense que ça fait partie des top picks, en tout cas des valeurs qu'il faut avoir en portefeuille là pour les années à venir. Donc, profitons-en, c'est pas toujours le cas.
Alors, on va juste parler un petit peu d'abstrait et de l'actualité immédiate. On a vu les derniers chiffres de valorisation d'Anthropic. Maintenant, ça y est, ils se veulent plus gros qu'OpenAI. On parle d'une valorisation qui pourrait, de sources officieuses, proche du dossier, atteindre les 1000 milliards de dollars de capitalisation. Moi, il y a trois semaines, je lisais 1400. Tout ça, ça fait du yo-yo. Tout ça, c'est... Qu'est-ce que ça vous évoque, justement, cette course à la taille critique avant les IPO? Surtout que le marché des pré-IPO, c'est quelque chose que vous avez toujours regardé de très près.
Oui, énormément. Quand vous vous dites la course à la taille critique, vous voulez dire à quel point ils cherchent à être développés avant, c'est-à-dire avoir beaucoup d'utilisateurs avant, c'est ça ce que vous voulez dire?
Quitte à être entre les deux perpétuellement, pour maximiser la valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas une sorte de modèle économique finalement pour, alors que ce soit OpenAI ou que ce soit Anthropic?
D'avoir beaucoup d'utilisateurs et de montrer en fait leur capacité. Oui, ça c'est certain. Après, de toute façon, on est dans un moment où on achète la suite de l'histoire, on achète l'avenir, on vit l'équivalent d'une révolution industrielle, il faut bien l'avoir en tête. Donc imaginez si ceux qui avaient inventé la machine à vapeur avaient été introduits en bourse. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'on aurait des niveaux de valorisation énormes et qu'ils auraient besoin de démontrer que l'utilisation des machines à vapeur est de plus en plus attractive, intéressante. Donc, dans ce cadre-là, ça me semble assez logique. Le fait qu'il y ait des valorisations énormes, ça me semble à la fois logique et en même temps, on voit à quelle vitesse anthropique, c'est-à-dire Claude, AI, est venu en fait concurrencer ChatGPT qui était le maestro, qui était vraiment tout en haut de la chaîne alimentaire. Donc ça va très très vite. Et d'ailleurs, c'est un sujet pour tous les gens qui créent des business aujourd'hui en utilisant l'intelligence artificielle. Ils se demandent, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui va arriver dans 3 mois et qui va complètement bouleverser ma manière d'opérer, même à travers l'IA?
Alors, autre actualité, et on parle de disruption justement, et ce fameux jeu de massacre là, qui consistait à taper sur la tronche des éditeurs de logiciels professionnels, parce que l'IA allait les disrupter. Là, on a eu Mistral AI qui a dit, moi je vais commencer à bosser avec les industriels et créer des processus, machin. Et tout de suite, première réaction, Dassault Systèmes. La question que je me suis posée, et c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir en plateau aujourd'hui, est-ce que c'est Mistral AI qui peut, d'un coup, comme ça, ex nihilo, donner les données d'écoulement dynamique sur les Airbus, concevoir des planches de bord, des nouvelles Peugeot ou des Fiat? Non, ils ont besoin des données propriétaires, ils ont besoin des gens qui s'en occupent et qui connaissent le métier. Au contraire, Dassault Systèmes va intégrer l'IA au processus pour qu'il soit plus efficace et gagner du temps. Non, c'est pas plutôt dans ce sens-là que ça va
se passer. Ce que vous dites m'évoque deux sujets. Le premier sujet, c'est que malheureusement, Mistral AI a besoin de pivoter.
Bien sûr.
C'est là, pour le coup, c'est pas très cocorico, mais en tout cas, c'est vrai que malheureusement...
Mais c'est logique aussi.
Ça va être dur d'imposer le chat, donc leur solution d'intelligence artificielle dans le monde entier. On essaye en Europe de l'utiliser parce que c'est évidemment souverain, on va dire. Mais la réalité, c'est que s'ils veulent gagner de l'argent et exister dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il faut qu'ils trouvent un nouveau modèle. Je trouve que c'est intelligent de se dire... Écoutez, on est en Europe, on a des industries, on a des entreprises qui ont besoin d'accélération, d'ultra-digitalisation en utilisant l'IA, de spécialistes qui vont venir en fait entraîner des IA pour le compte des entreprises. Donc, c'est malin. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est vrai que c'est étrange, en fait. C'est-à-dire, c'est étrange des entreprises qui sont pour la plupart quand même avec beaucoup de propriété intellectuelle, de propriété industrielle, de compétition mondiale, qui vont faire rentrer, en fait, finalement, et qui vont donner accès à sûrement des bases de données quand même significatives pour pouvoir construire des modèles. Alors, une société européenne. Donc, j'espère que ça va être bien encadré, mais je comprends ce que vous voulez dire. Ça peut poser des questions. C'est une nouvelle manière de gérer ces datas.
Mais est-ce que c'est pas justement le témoin que l'IA doit être justement au confluent de ceux qui savent faire, donc qui ont les données, le savoir-faire, et je pense au Dassault Systèmes par rapport à un Airbus, et être l'accélérateur du processus qui sera au centre, et simplement se limiter à ça, et ce sera déjà très très bien.
Ce sera bien, mais vous savez, dès qu'il y a de la place, on entre, c'est ça le business. Donc là, il y a de la place.
Le pied dans la porte.
Beaucoup d'entreprises, on peut quand même le dire, moi je vois plein de chefs d'entreprise dans plein de domaines, des petites, des moyennes et des grosses entreprises, le choc est tellement violent de l'intelligence artificielle qu'on se dit, je suis obligée de prendre la vague. Et prendre la vague aujourd'hui avec des gens en interne qui n'ont pas forcément les réflexes, la formation IA, c'est très difficile. Donc on fait appel à des consultants, il y en a plein. Mais quand il y a des gens comme le chat, comme Mistral, en fait, qui sont quand même très compétents, brillants, avec un gros savoir-faire, une veille mondiale extraordinaire, qui disent, nous, on va vous aider à implémenter l'IA dans votre système et dans votre manière de travailler. Bon, je comprends que ça donne un petit peu envie, quoi.
Bon, il y a un truc sur lequel vous nous mettez le nez. Toutes les sociétés software qui sont typologie intelligence artificielle. Bon. Est-ce que c'est une hype ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher? On en a vu un, deux, trois du côté des États-Unis, etc., qui étaient très actives. Est-ce que pour autant, il n'y a pas quelque chose qui est un peu surévalué là-dessus?
En fait, l'intelligence artificielle progresse tellement vite qu'on arrive à créer des logiciels de plus en plus rapidement. Avec très peu de moyens de son côté. Bon, nous, on y arrive déjà chez nous. Donc, imaginez une entreprise qui se lance dans ce domaine-là. Donc, je pense qu'en fait, ça va être un segment qui va être extrêmement bouleversé. On a déjà commencé à le voir. Et c'est la raison pour laquelle, dans la question qui m'avait été posée en préparant cette émission, c'est de dire, vous restez à l'écart de quoi? Je reste à l'écart des logiciels dans leur ensemble parce que je suis convaincue qu'il va y avoir... Alors, certains, peut-être, vont se réinventer grâce à l'IA. Et tant mieux. Je pense que, d'ailleurs, je les invite à le faire. Il y a urgence urgent d'y travailler, mais il y a beaucoup de chances qu'il y ait des nouveautés rapides, efficaces qui sortent et qui viennent complètement exploser le marché et certains leaders. Donc je resterai à l'écart.
Ouais, voilà, là on va parler de disruption, mais à juste raison, parce qu'il n'y a plus aucune plus-value. Et là, effectivement, c'est le syndrome Duolingo.
Oui.